Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette, qui est bien présente au micro, Jean-Sébastien Laliberté à la console, pour vous présenter cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. Par sa philosophie, ses méthodes d'accompagnement aussi, la maison Carpe Diem, qui est un centre de ressources pour les personnes atteintes d'Alzheimer, leurs proches également, se distingue partout au Québec, en France également. Et demain, du côté de Trois-Rivières, Carpe Diem organise un grand colloque qui réunira plusieurs experts et des gens aussi du grand public. Là, ils attendent 400 personnes autour d'une question bien importante: pourquoi et comment accompagner les gens qui vivent avec l'Alzheimer? Et c'était une façon pour moi aussi de me donner l'occasion de discuter avec Nicole Poirier, fondatrice et directrice de Carpe Diem, de cette question. Oui, mais également de cette approche qui attire tant l'attention. Ce sera en deuxième partie. Hier, si vous vous rappelez bien, avec le psychologue Jean-François Vézina, on apprenait que le jeu a une importance capitale dans nos vies, autant d'adultes là, que d'enfants. Et si on a perdu justement le sens ou l'essence du jeu, les enfants qui nous entourent sont un excellent modèle parce que pour eux, le jeu, c'est sérieux et ça semble plutôt inné. Quoique, ce n'est pas toujours le cas pour des enfants qui présentent des besoins particuliers. Jouer peut même devenir un défi pour eux. Comment on peut développer ces capacités-là chez ces enfants qui ont des besoins spéciaux? J'en parle avec Martine Dugas, psychoéducatrice au Centre de psychologie et d'éducation du Mont-Saint-Hilaire, également collaboratrice comme experte pour le site web de YOPA. Bonjour Martine Dugas.
Bonjour Madame Paquette.
Je le disais d'entrée de jeu, jouer pour les enfants, c'est du sérieux et dès le plus jeune âge, ça semble plutôt inné pour eux, plutôt simple, on n'a pas besoin de leur montrer. Est-ce que c'est aussi important pour les enfants qui ont des besoins particuliers?
En fait, le jeu est très important pour tous les enfants. Maintenant, les enfants qui ont des besoins particuliers, en fait, c'est un peu leur travail hein, de jouer. Les enfants sont dans le principe du plaisir, tout ça. Puis, c'est à travers le jeu qu'ils vont se développer vraiment au niveau de toute leur sphère développementale, hein, le langage, au niveau cognitif, faire des associations, des connaissances, ou acquérir des connaissances, tout ça, au niveau social également. Mais pour les enfants qui ont des besoins particuliers, eux, ils vont avoir peut-être l'envie, mais ils vont avoir des défis ou des retards au niveau de leur développement qui leur permettront pas là, d'accéder à un même niveau en termes de qualité, peut-être, au niveau du jeu.
Mais ils ont tout de même cette envie-là. C'est juste qu'ils ont besoin peut-être plus d'encadrement pour le faire.
Oui. Dans le fond, tout dépendant de ce qu'a l'enfant, hein, parce que les enfants qui ont besoin des besoins particuliers, bon, oui, ce sont des enfants qui ont des défis, des retards. Il y a des enfants qui présentent des troubles, des syndromes génétiques, une déficience intellectuelle. Donc, tout dépendant de l'enfant, de son tempérament aussi et du trouble ou de la particularité qu'il présente, l'intérêt peut varier. Par exemple, si on a un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme, ben de par son trouble, il a des particularités qui font en sorte qu'il n'aura pas les mêmes intérêts au niveau du jeu que les enfants qui ont un développement plus typique. Je peux faire référence, par exemple, à ces enfants-là vont aller plutôt vers des jeux qui sont plutôt répétitifs. Mm-hmm. Donc, placer les objets. Donc, si j'ai un set de couverts et d'aliments, je vais peut-être m'amuser à les placer au lieu de faire semblant avec les jeux. Ils vont peut-être préférer aligner les jouets, donc placer les voitures en ligne, les faire tourner, les explorer d'une façon différente des autres enfants. Donc, c'est pas qu'ils ont pas l'intérêt, c'est plutôt peut-être une incapacité à comprendre quoi faire avec ce jeu-là et ils vont être moins tentés également à aller vers des jeux qui sont plus sociaux et imaginaires parce que pour eux, générer des nouvelles idées est très difficile.
Ouais, et j'imagine aussi que puisque leur développement est différent, les jeux qui les intéressent ne sont pas les mêmes que ceux des enfants qui ont le même âge.
Non, c'est ça. Bien, tout d'abord, il faut toujours considérer le niveau développemental de l'enfant. Hein, si un enfant a 4 ans, mais présente une déficience intellectuelle, parce que, bon, là, j'ai parlé de l'autisme, mais il y a d'autres particularités, bien, c'est sûr qu'on n'ira pas offrir à un enfant de 4 ans qui a peut-être un âge développemental d'un an le même jeu que les autres enfants vont s'intéresser à 4 ans, par exemple. Donc, il faut toujours essayer de voir quel type d'enfant j'ai devant moi, quels sont ses intérêts, quelles sont ses forces pour pouvoir choisir, dans le fond, le jeu le plus approprié pour lui.
Martine Dugas, vous êtes psycho-éducatrice. Est-ce que vous savez si dans les garderies, les centres de petite enfance ou, bon, n'importe quel autre lieu qui accueille les enfants, nous, aujourd'hui, on s'intéresse aux 0-5 ans, âge préscolaire, est-ce que les adultes en place, là, prennent compte des besoins particuliers des enfants dans leurs propositions de jeu?
Oui, de plus en plus. C'est sûr que dans leur réalité, parfois les groupes sont composés de 8 enfants. Des fois, il y en a un ou deux avec des besoins particuliers, des fois au niveau du langage, des fois de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Donc, c'est difficile pour eux de toujours tout adapter, mais ils sont de plus en plus ouverts à l'intégration des enfants qui ont des besoins particuliers et à justement là, mettre en place les adaptations que les différents professionnels leur proposent. Donc, c'est sûr que pour nous, on est bien heureux de ce dénouement-là. Et puis, souvent, les milieux reçoivent également là, des aides financières qui leur permettent de faire l'achat de matériel spécialisé là, qui a été proposé par le professionnel et donc de mettre en place là, des adaptations dans le milieu.
Donc, après ça, ça devient une collaboration entre le parent et l'intervenant ou bon l'éducatrice de dire « mon enfant a tel type de besoin, est-ce possible de les respecter aussi dans la routine? »
Oui, c'est sûr qu'il faut une ouverture du milieu. Ce ne sont pas tous les milieux, ce ne sont pas toutes les éducatrices. Hein. Il y a des dames qui se retrouvent seules à la maison avec 6 enfants, donc c'est pas la même réalité qu'en CPE où parfois il y a une aide, une conseillère pédagogique qui peut soutenir aussi. Mais normalement, les gens se montrent très ouverts parce que ça va favoriser une meilleure qualité au quotidien pour l'intégration de cet enfant-là.
Martine, ensemble, on a parlé des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, de déficience intellectuelle aussi. Quand je pense à besoins spéciaux, je pourrais penser également à des enfants qui ont des hypersensibilités. Est-ce que ça entre dans besoins particuliers?
Oui, souvent, les enfants, que ce soit un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou, je sais pas moi, des enfants qui ont certains syndromes ou justement le trouble du spectre de l'autisme, souvent, il y a des particularités sensorielles qui sont associées. Donc, ce sont des enfants qui vont être réfractaires à certaines textures, comme par exemple, si on leur offre de la pâte à modeler, ils pourraient faire une crise. On peut penser que c'est comportemental, mais ça va être en lien plutôt avec la texture du jeu ou des jouets qui, si on fait un jeu très bruyant avec les autres enfants ou si les enfants sont trop près dans la bulle de l'enfant. Donc oui, tous les bruits, en fait, tous les sens peuvent être perturbés chez les enfants qui ont des besoins particuliers. Bien entendu, ça dépend toujours de l'enfant, là, c'est du cas par cas.
Ouais. Du point de vue de la dextérité, est-ce que c'est un problème également?
Oui, en fait, si on fait référence à certains jeux, par exemple, certains jouets, si on pense à l'enfilage, ben de petites perles vont peut-être être faciles à enfiler pour certains enfants. Mais pour un enfant qui a une difficulté au niveau de la coordination oculomanuelle ou seulement la dextérité, le moteur fin qui est difficile, l'appréhension, ben faudrait peut-être adapter avec des plus grosses perles ou la même chose pour les casse-têtes. Les poignées de casse-têtes, des fois, sont petites, donc faut y aller vers des plus grosses. Donc, effectivement, au niveau moteur, il y a plusieurs adaptations qui doivent être faites parfois.
Et ordre général, en ce qui a trait à la compréhension, est-ce que les consignes doivent demeurer simples ou pas nécessairement?
Bien, il faut toujours s'adapter à l'enfant qu'on a devant nous. C'est sûr que si on a un enfant dont la compréhension a été jugée déficitaire, bien, il faut adapter beaucoup la façon qu'on va l'expliquer. Il faut amener des modèles. Il faut donc montrer à l'enfant à imiter, même si des fois l'imitation est déficitaire également. Donc, on peut utiliser aussi des dessins ou écrire des étapes, montrer des étapes de façon visuelle à l'enfant ou lui donner des repères que les autres enfants n'ont pas besoin. besoin pour faciliter, dans le fond, sa compréhension. Je peux faire référence, par exemple, au jeu des canards qui tournent et qu'il faut choisir un canard de la forme qu'on a. Donc, ça peut être un cercle rouge, un triangle jaune. Eh bien, dans ce jeu-là, il n'y a pas de support visuel, par exemple, pour que l'enfant sache qu'il doit ramasser les cercles rouges. Donc, on peut en fabriquer un. Donc, faire un petit carton avec 4 cercles rouges. Et là, l'enfant sait que lui, il faut qu'il ramasse et qu'il perd le cercle rouge avec le cercle rouge. Donc, c'est une façon d'adapter un jeu, de rajouter quelque chose pour que l'enfant puisse mieux le comprendre.
Oui. Martine Dugas, vous qui travaillez auprès de cette clientèle, on a parlé tout à l'heure des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme dans leurs intérêts, mais est-ce qu'ils ont d'autres intérêts, ces enfants-là? Est-ce qu'ils aiment se déguiser, par exemple, ou faire du coloriage?
Bien, en fait, ils ont des intérêts parfois qu'on appelle restreints, c'est-à-dire qu'un enfant peut adorer les dinosaures, collectionner des connaissances sur ce sujet-là, ou peuvent aimer vraiment à outrance un super-héros et donc investir que sur ce super-héros-là. Donc, possiblement qu'ils vont vouloir se déguiser avec ce costume-là, mais de générer des nouveaux costumes, de générer des nouvelles idées, de vouloir partager un jeu imaginaire, c'est vraiment une difficulté pour eux. Et donc, de pouvoir créer et faire des scénarios, ça ne sera pas leur force. Donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir tendance à aller plus vers des jeux, comme je vous disais tantôt, plus répétitifs. Ouais. Et ils peuvent se déguiser, mais c'est possible que le jeu imaginaire auquel ils vont accéder, il va être répétitif en soi parce que ça devient rassurant, c'est du connu. Et puis, c'est difficile pour eux de générer, là, comme je disais, des nouveaux scénarios.
En tant qu'adulte ou parent, là, est-ce qu'on doit favoriser de nouveaux scénarios, tenter de stimuler l'imaginaire de ses enfants ou plutôt respecter leurs besoins, leur amour de la routine?
Bien, moi, je pense qu'il y a un dosage à faire entre les deux. Si on demeure dans la routine et on les laisse seulement répéter, c'est sûr qu'on les ouvre pas à d'autres apprentissages et on les ouvre pas justement à s'insérer dans un nouveau groupe avec des enfants qui ont des nouvelles idées. Donc, s'ils restent toujours rigides dans leur façon de faire, bien, les autres enfants vont aller voir ailleurs parce que les autres enfants, eux, sont à un niveau vraiment exploration et d'ouverture à l'autre et de créer des nouveaux scénarios et surtout de s'ajuster aux nouvelles idées des autres. Donc, moi, je pense qu'il faut leur montrer, mais en allant peut-être à leur rythme, en utilisant des façons de faire qui vont les rejoindre, qui vont être adaptées pour eux. Mais oui, effectivement, moi, c'est mon travail là, de demander aux parents d'élargir ces aspects-là.
Et l'une des difficultés, et j'en parlais hier avec Jean-François Vizina, c'est également dans son livre, c'est que les enfants, quand on les observe jouer, souvent, ils arrêtent même en plein cœur du jeu pour soudainement changer les règles et « OK, on repart avec ces nouvelles règles-là, que ce soit un jeu de ballon ou autre jeu. » Pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, ça peut devenir extrêmement difficile à suivre de jouer avec les autres.
Oui, parce que comme je le disais tantôt, générer une nouvelle idée, mais c'est aussi le fait que quand je ne sais pas ce qui s'en vient, ça génère de l'anxiété aussi. Donc, quand les enfants se retournent comme ça rapidement et changent le jeu, l'enfant qui avait commencé quelque chose, qui commençait à être bien ou peut-être qui était rendu à un niveau qui était capable d'avoir un certain contrôle sur le jeu, eh bien, d'arriver comme ça à changer rapidement, ça génère de l'anxiété. C'est souvent là que les enfants vont décider d'aller jouer seuls parce qu'ils vivent des échecs. Et donc, face à l'incapacité de s'ajuster, hein, c'est une question d'ajustement, ben, ils vont préférer peut-être retourner à leur jeu répétitif.
Et là, ça devient triste, là, évidemment, parce que ça les isole.
Oui, ça les isole, mais il faut savoir que des fois, c'est peut-être un besoin pour eux d'aller justement se ressourcer pour mieux revenir après. Ce qui est important de savoir, que c'est le dosage que je disais tantôt, il ne faut pas toujours les laisser s'isoler dans leur jeu répétitif, mais ça peut répondre à un besoin pour eux, là, pour se calmer, justement.
Quels sont les jeux, Martine Dugas, qui pourraient être plus adaptés pour eux? Je m'adresse bien sûr aux parents à la maison qui parfois ont peut-être pas tout le soutien nécessaire ou le temps là, d'imaginer des jeux qui conviennent à leurs enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de soutien, de support visuel. Est-ce qu'il y a d'autres tactiques?
Oui, dans le fond, ben pour aider, dans le fond, c'est vraiment autour de l'adaptation de l'environnement, d'adapter le temps et d'adapter le jeu. Par exemple, adapter l'environnement, on peut faire des bacs qui sont identifiés pour que l'enfant s'y retrouve plus facilement, des coins définis. On peut faire aussi une rotation des jouets. Moi, je suis pas pour l'achat absolument de matériel spécialisé qui coûte extrêmement cher. Moi, je suis plus pour l'adaptation d'un jeu, peut-être diminuer les règles avec ce même jeu-là, cacher certaines parties du jeu ou le rendre un jeu plus attrayant ou utiliser du matériel qui fait du bruit ou des choses des choses comme ça.
Donc, lumineux aussi, hein?
Lumineux, ouais. Qui font du bruit, comme par exemple, si l'enfant comprend pas comment se servir d'une marionnette parce que ça fait pas de sens pour lui, ben on peut le faire chatouiller avec la marionnette, on peut faire des bruits drôles avec la marionnette ou on peut utiliser une marionnette qui lui parle plus selon ses intérêts à lui. Quand je dis adapter le temps, on peut mettre un temps de jeu à l'horaire. On peut essayer de le mettre à l'horaire de l'enfant pour lui montrer que c'est important et qu'on s'attende de lui qu'on joue pendant, par exemple, 5 minutes avec une minuterie. Pour stimuler ça, on peut également coincer un nouveau jeu, peut-être, qui va générer de l'anxiété, mais entre deux jeux intéressants pour l'enfant, donc dans l'horaire. Donc, on pourrait dire, voici, on va faire quelque chose de répétitif avec ces jeux-là. Ensuite, je vais te demander un petit 5 minutes, on va jouer à ce nouveau jeu de mémoire-là, et après, tu pourras retourner à ton jeu que tu aimes beaucoup.
Ah oui, c'est bien ça, quelque chose que tu aimes, que tu connais. On essaie quelque chose de nouveau et le retour à ton jeu préféré, par exemple.
Exactement. Donc, ça stimule. L'idée, c'est d'y aller doucement, de peut-être changer une variante à la fois. Donc, si, je sais pas, moi, l'enfant se déguise toujours en Batman et fait toujours les mêmes paroles, on peut amener un petit imprévu de dire, ah là, Batman a perdu son masque, par exemple. Et là, pour essayer de générer ça va générer un peu d'anxiété, mais pour essayer d'amener une petite variante au jeu puis voir comment on peut aider l'enfant à générer des nouvelles idées puis éventuellement à s'adapter dans un jeu avec d'autres enfants là, qui génèrent beaucoup de nouvelles idées.
Oui, et puis on s'intéressait davantage, nous ensemble, Martine, aujourd'hui aux enfants d'âge préscolaire, mais à un moment donné aussi, les enfants vont à l'école et là, il y a des stimuli, des consignes multiples et bien autres, là.
Oui, puis quand ils sont petits, c'est important de développer ça parce que justement, les autres enfants s'en rendent moins compte aussi. Mais plus le décalage est grand quand l'enfant vieillit, plus le décalage entre le jeu, son jeu à lui et le jeu des autres, ben c'est là qu'il risque de vivre plus de rejet, dans le fond, rendu en âge au niveau scolaire, là.
Et quand vous parliez de simplifier, ça peut être de cacher certaines pièces, par exemple, si dans un jeu, on a besoin de 6 éléments, ben on se concentre sur 3.
Exactement. Par exemple, si on veut faire encastrer des formes, avec notre main, on peut tout simplement en cacher 2 sur 4. En fait, le but, c'est de faire vivre des succès à l'enfant pour que l'enfant ait envie de le refaire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut utiliser des modèles visuels. Si je prends, par exemple, Monsieur Patate, pour nous, c'est très simple de se dire, bon, faut mettre les bras, les yeux, le nez, la bouche, tout ça, mais pour un enfant qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas c'est quoi qu'on s'attend de lui avec ces pièces-là, bien, on pourrait, par exemple, prendre en photo un Monsieur Patate déjà terminé ou prendre toutes les étapes et les mettre sous forme de justement d'étapes, comme tu mets les yeux en premier, le nez, la bouche, les bras et à la fin, tu arrives à un Monsieur Patate terminé. Même chose pour le jeu symbolique, le jeu de faire semblant, étant donné que ce sont des enfants qui génèrent pas facilement des idées, on pourrait très bien prendre une image de, par exemple, du garage Playmobil et autour, on met plein d'exemples de ce qu'on peut faire. On peut faire rouler l'auto, on peut avoir un accident, on peut mettre de l'essence dans la voiture. Donc, pour montrer à l'enfant qu'il y a d'autres variabilités qu'on peut faire que juste aligner les voitures, par exemple.
Martine Dugas, c'était tellement intéressant. Merci beaucoup. Vous êtes psychoéducatrice au Centre de psychologie et d'éducation du Mont-Saint-Hilaire, également collaboratrice comme experte pour le site web de IOPA. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai entendu parler de vous, que j'ai entendu parler davantage sur le sujet parce que vous avez signé un article sur comment développer le jeu chez les enfants qui présentent des besoins particuliers. Et pour en savoir davantage, www.martineduga.ca. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette, à commercial@vusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_M.
Bonjour, Nicole Poirier.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et directrice de Carpe Diem, un centre de ressources d'Alzheimer du côté de Trois-Rivières. D'ailleurs, il fait beau à Trois-Rivières?
Ah oui, il fait beau.
Il doit faire froid.
Beau et froid, oui.
Nicole Poirier, l'approche de la maison Carpe Diem, qui est vraiment basée sur des valeurs d'autonomie, d'épanouissement de la personne atteinte de la maladie, est reconnue partout au Québec et on tente de reproduire ce modèle-là, autant ici qu'en France. D'ailleurs, il y a une maison qui est en train de s'ouvrir à Diem, là, qui est en train de voir le jour. Pourquoi on tente d'imiter votre modèle, Nicole Poirier?
Bien, aujourd'hui, en ce qui concerne les conditions de vie et l'accompagnement des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, on se trouve devant des difficultés ou de l'impuissance. On cherche des façons différentes de les accompagner. Et l'approche de Carpe Diem qui s'est développée dans une maison qui est une maison, une grande maison, un ancien presbytère.
Votre maison d'enfance?
Non, c'est pas ma maison.
Même maison, d'accord.
Ma première expérience, elle a été dans notre maison familiale.
Oui, OK.
C'est là que j'ai appris à vivre avec des personnes qui ont la maladie et c'est cette expérience-là que j'ai vécue, que j'ai voulu reproduire dans Carpe Diem. Parce que j'avais réalisé que le fait de vivre avec les personnes, de cuisiner ensemble, de manger ensemble, ça leur permettait de rester autonomes et de maximiser leurs forces. Et comme personne qui accompagne aussi, je pense au personnel dans les établissements qui sont souvent démunis devant des situations difficiles, bien, ils vivent l'épuisement, ils vivent peut-être la démotivation. Alors, tout ça fait en sorte que on cherche des façons différentes de s'occuper des personnes et l'approche de Carpe Diem vient répondre à des besoins autant pour la personne elle-même que pour sa famille et pour que ceux qui les accompagnent autant à domicile qu'en hébergement.
Oui. La maladie d'Alzheimer, ça suscite beaucoup d'intérêt partout dans le monde parce que ça touche énormément de personnes et ça a énormément d'impact au sein des familles. Vous venez de bien l'expliquer, Nicole Poirier, et même au sein de l'équipe soignante. Comment on tente de minimiser les impacts? Est-ce que c'est possible?
Oui. Actuellement, il n'y a pas de médicament efficace pour combattre la maladie. Mais il y a quand même des moyens pour que la vie soit encore belle, vivable et qu'elle ait du sens. Et nous, on a la conviction, et on le vit depuis bientôt 18 ans, qu'en organisant la vie, en changeant l'accompagnement dans les façons de faire, ça a des impacts sur le bien-être de la personne. Donc, comment on peut faire? D'abord, là, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on manque de connaissances sur la maladie. Mm-hmm. On ne sait pas, par exemple, que quand on dit à une personne, « Ben oui, souviens-toi », elle s'en souvient pas. Quand on connaît comment la maladie fonctionne, c'est comme si vous êtes sur un ordinateur puis vous n'enregistrez pas un document. Vous avez eu beau travailler pendant une heure, s'il n'est pas enregistré, il est perdu. Ça ne sert à rien de recommencer. Alors, souvent, on agresse la personne par nos propres réactions, notre propre angoisse. Et notre approche, c'est de voir comment on peut changer nos façons d'accompagner. Par exemple, des petits mots aussi, dire à une personne, « Venez, c'est le jour de votre bain. » Bien, quand on se met à sa place, là, c'est très dur pour l'estime de soi de se faire dire « Prenez, je vous aide pour votre bain ». Alors, on va plutôt approcher la personne en disant « Bien, si vous voulez, le bain est coulé, quand vous serez prêt ». Alors, la personne va continuer de prendre des décisions pour elle, pour sa vie. Alors, dans notre approche, il y a tout ça. Il y a aussi le fait de vivre avec la personne. Il y a les neuroscientifiques ont démontré que dans le cerveau, il y a des neurones qu'on appelle les neurones miroirs qui s'activent à la vue de certaines situations. Donc, si vous souriez à quelqu'un, il y a des bonnes chances que vous souriez aussi. Mais si tout le monde a l'air de mauvaise humeur, les gens, ils absorbent le climat. Mmh. Alors, on met beaucoup d'énergie sur le climat, sur la compétence du personnel, sur l'organisation de la vie. Pas d'horaire rigide qui oblige les gens à se coucher puis à se lever à certaines heures. Pas de règles qui, par exemple, qui les empêchent d'aller dehors.
Oui. Une sieste au lieu de faire l'activité. Oui.
C'est ça. Tout était construit à partir de la personne elle-même, de sa réalité, puis aussi du type de maladie qui l'atteint, parce que il y a plus qu'une forme de maladie d'Alzheimer. Alors, il faut qu'on les connaisse, ces formes-là, pour pouvoir adapter notre attitude. Puis on se rend compte que avec cette approche-là, bien, il y a moins de médicaments pour calmer, moins de contention, une meilleure satisfaction pour le personnel, puis aussi une plus grande, moins de culpabilité pour la famille.
Et moins d'épuisement pour tout le monde, bien sûr. Nicole Poirier, le temps file, donc tout de suite, je vous amène à nous parler de ce grand colloque que vous organisez demain du côté de Trois-Rivières avec des experts d'un petit peu partout, là, d'ici et de la France. Vous allez aborder trois grands thèmes qui sont, entre autres, les enjeux liés au diagnostic, l'accompagnement à domicile, l'hébergement, un regard différent pour accompagner autrement. Pourquoi ces grands thèmes-là?
Bien, on suit le cheminement d'une personne et de sa famille qui vit avec les premiers signes de la maladie. Lorsque le diagnostic tombe, il y a plein de questions qui se posent. Comment on accompagne la personne, sa famille? Tous ces enjeux-là, les gens qui disent « Est-ce qu'elle en fait vraiment? Est-ce qu'elle me manipule? » Là, la question liée au diagnostic, c'est important. Pour après ça passer à la question de la vie à domicile qui peut durer plusieurs années. Alors, comment on aide la famille? Comment on peut entrer dans la maison pour tranquillement créer un lien avec la personne qui a besoin de services? Parce que souvent, les gens avec la maladie ont peur, ne veulent pas de services à la maison et disent « je suis capable, j'ai pas besoin d'aide » et ils se sentent envahis. Alors, comment on fait pour les aider malgré leur résistance? Parce qu'ils ont réellement besoin. Puis le troisième point, mais l'hébergement, mais c'est un gros enjeu parce que il y a les gens habituellement finissent leur jour dans un établissement qui n'est pas leur maison. Il faut mieux équiper les équipes, changer les organisations, penser autrement, faire des pressions sur le gouvernement pour que les conditions changent, les conditions de vie changent.
Ouais. Nicole Poirier, il y a une maison à Trois-Rivières, une autre qui s'ouvre du côté de la France. Est-ce qu'il y en aura d'autres rapidement en province bientôt, vous pensez?
Mais si le gouvernement acceptait de faire autrement que des formules uniques, des financements uniques, puis s'ils acceptaient de créer des lieux alternatifs où on un peu comme à Carpe Diem, on a une équipe qui va à domicile, mais c'est la même équipe aussi qui accueille la maison.
Mais on le souhaite.
Il veut pas faire ça. Alors, la France le fait.
Oui. Bien, c'est un modèle à suivre. Alors, on suivra ce colloque du côté de Trois-Rivières demain. Nicole Poirier, fondatrice et directrice de Carpe Diem, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler.
Merci de m'avoir invitée.
Jean-Sébastien Laliberté à la console, Marianne Paquette au micro. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.